François Skuyten, bonjour. Alors, 29 novembre, jour à marquer d'une pierre blanche, en fait de deux pierres blanches, puisqu'il y avait l'inauguration du Noté Poulpe sur la place Poulart, sculpture imposante, 12 tonnes, 9 mètres de haut, 6 mètres de haut, pardon, et qui est visible jusque fin février, et puis après, bon, vous partez, on va en revenir à Amiens. Émouvant quand même comme moment, non? C'est un bel abattissement quand même, non?
Oui, parce que c'est un travail de très longue haleine avec Pierre Mater, le sculpteur. On a imaginé ça il y a maintenant presque 7 ans.
7 ans.
Oui, et 7 ans d'obstination, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte à quel point c'est fragile, ces projets, avant qu'ils vraiment s'imposent. Et la fonderie, c'est plus d'une année pour une très grosse fonderie dans l'est de la France, près d'Épinal. Et on voit bien que ça demande tout un processus de validation pour qu'à un moment donné, cette sculpture qui est une espèce de prolongation de l'imaginaire de Jules Verne s'impose à tout le monde. Ouais.
C'était une initiative de la ville d'Amiens ?
Oui, c'est une initiative.
Pour les 120 ans du décès de Jules Verne.
À l'époque, on n'en est pas encore à imaginer cette date-là.
Anniversaire.
Oui, parce que c'est vraiment, il y a quand même très longtemps. Mais oui, bien sûr, je pense qu'il se rendait compte qu'il manquait une incarnation de cet écrivain, de l'imaginaire de cet écrivain à Amiens. Et puis donc, ça devait être devant la gare au départ. Sur un plan d'eau devant la gare, et puis bon, ça a été très compliqué parce que en dessous de cette surface, il y avait beaucoup de problèmes qui faisaient qu'on ne pouvait pas mettre une sculpture de 12 tonnes. Donc ça a évolué, mais ça veut dire que c'est en bronze. Mmh, et donc ça, c'est un coût, mais un argent qui va à une entreprise ancestrale qui développe des connaissances, je trouve magnifiques. Moi, j'étais tellement ému de voir sortir de la fonderie ce monstre des mers. Et donc, oui, ce parcours est complexe. Et on a réussi à ce qu'il fasse un crochet par Bruxelles. Et ce que je trouve formidable, c'est d'avoir mis devant le palais de justice, évidemment. Parce que...
Et qui sort de terre, comme ça, avec cette pavée tout autour.
Alors ça je vois encore un Italien qui nous dit... Ah, vous êtes gonflés, vous les Belges, mettre le symbole de la Camorra devant la justice.
C'est pas mal.
Et puis d'autres qui me disent, mais c'est toute la difficulté de la justice,
très symbolique.
Oui, très symbolique, qui surgit devant cette place Poulart pour exprimer tous les troubles et les difficultés que parfois la justice a à s'imposer. Et donc, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est la façon dont l'imaginaire des gens, de ceux qui vont sur cette place, se met à fonctionner.
Ce qui est assez surprenant, c'est de voir la façon dont les gens photographient et ils prennent souvent la rue.
Ouais.
Alors que finalement, je trouvais que le symbole était plus fort finalement avec le palais.
Oui, mais pour l'instant, le palais, il est recouvert de
des échafaudages.
Oui, mais d'ici un an, on va revoir enfin cette façade de la place Poulart totalement blanche et immaculée et retrouver la beauté de
l'édifice.
De l'édifice tel qu'il a été conçu par Joseph Poulart.
29 novembre, c'est aussi la sortie en librairie de Compulsion, donc votre dernier ouvrage, que vous aviez conçu avec Adam Roberts, l'auteur britannique. Revenons un petit peu à la genèse. Projet initié apparemment par John Scudfelder, producteur américain de cinéma, avec sa société Addictive Pictures, qui était déjà orienté vers la science-fiction, Cargo 2. Et John, qui est aussi éditeur avec Neotext, est-ce que c'est lui qui vous a contacté ? Est-ce que c'est lui qui vous a lancé l'idée ? Vous partiez d'une page blanche ou au contraire, il vous avait déjà orienté ?
Non. J'étais très surpris qu'il ait cette connaissance de mon travail. Et il a dit, j'ai une idée que je voudrais que tu développes. Et je n'ai pas pu résister. Cette idée toute simple de dire... une maladie envahit le monde, une espèce d'addiction, une espèce de compulsion pour prendre un objet du quotidien et l'apporter pour construire des édifices totalement hors normes et qui dépassent l'imagination, je dirais. Et ça m'a tout de suite interpellé entre quelque chose qui appartient vraiment au quotidien et puis l'idée même de compulsion, parce que je pense qu'on est dans un monde de compulsion. Et ça m'a... Voilà, je me suis dit, ça, c'est pas refusable. Et je suis parti là-dessus, puis le film, je ne sais même pas où on en est, je ne sais pas s'il se fera, mais avec Adam Roberts, celui qui a écrit le texte, on a eu du plaisir à développer cette histoire, quoi qu'il arrive.
Adam est déjà un spécialiste, on peut dire, et auteur prolifique en science-fiction.
Oui.
Donc c'est vraiment une belle alchimie entre vous deux, non ?
Oui, c'est ça.
Vous connaissiez ?
Non, on ne se connaissait pas du tout. C'est un mariage
challenge.
Arrangé. Ouais. Et j'aime bien ça, d'ailleurs, parce que je l'ai découvert. Il est venu à Paris plusieurs fois. Et j'ai vu comment un petit peu il fonctionnait. Et puis, il s'est inspiré de mes dessins. Moi, j'ai suivi aussi ce qu'il proposait. Donc, cette espèce de ping-pong, comme ça.
Et parce que finalement, vous n'êtes pas, entre guillemets, que simple illustrateur de ces textes. Il y a vraiment eu une fusion dans votre travail. Quand même.
Mais je ne sais pas faire ça, simplement illustrer. J'ai besoin de mettre les mains dans la machine. Je travaille d'ailleurs sur d'autres films avec des réalisateurs. Et tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est concevoir, en gros, le monde de l'histoire. Et ça veut dire l'histoire et en partie... Pas le scénario. Le scénario, c'est encore autre chose. Et là, il faut avoir des techniques, je dirais, que je ne possède pas. Mais par contre, oui, construire un univers, construire une histoire, ça, je peux aider à ça.
C'est ce que vous avez fait avec Jaco, finalement, en créant le futur de Mr. Nobody.
Oui, alors vous avez raison, mais là, j'avais un rôle beaucoup plus petit. Oui. Parce que Jaco avait une horlogerie extrêmement fine et dans lequel j'ai essayé de m'insinuer, de prendre une petite place et d'essayer de comprendre ce qu'il avait dans la tête. Mais comme c'est un ami, j'adore entrer dans
son univers.
Dans son univers et surtout dans la complexité de sa pensée, de son organisation narrative. Et d'ailleurs, chaque fois que je voyais des montages, chaque fois je découvrais des choses dans ce film. Parce que c'est un film qu'il a passé des années là-dessus. Et oh là là, je suis désolé. Et je suis toujours épaté de voir à quel point il a nourri ce film de tas de choses que je ne voyais pas au moment même. Mais oui, il n'y a pas de hasard. Quand on passe tant de temps, et ben à un moment donné, le film, comme ça, c'est un millefeuille, en fait.
Et avec juste Jacky, c'était aussi ça
Ah non, là, écoutez, c'est très drôle de parler.
Mais c'est aussi une application quand même assez importante. Tous les costumes de Gwendoline, c'était
oui. Alors, ils tombaient rapidement sur les corps des actrices. On les voyait pas toujours longtemps, parce que c'est un film un peu érotique. Et ce qui était passionnant avec Jacquin, c'était notre première expérience, j'étais quand même très jeune, avec Claude Renard, c'était évidemment le plaisir d'imaginer non seulement l'univers, mais les costumes. Mais là, il y avait un scénario qui préexistait déjà assez serré. Jacquin sortait de gros succès, comme Emmanuel, comme Histoire d'eau, etc. Et il a voulu faire un film grand public, sortir du côté trop clivant des films érotiques. Et donc, ça se voulait un peu un film entre Indiana Jones, Ben Hur et Emmanuel. Donc, c'était très curieux. C'était un film... que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner avec Claude, ce qu'on a imaginé, et d'aller voir, de voir dans les studios à Boulogne-Billancourt, je crois, de voir se réaliser des choses comme ça qu'on a crayonné. C'était, quand on est jeune, c'est une expérience quand même formidable. Le film en lui-même, c'est vrai, est loin d'être tout à fait extraordinaire, mais les Américains aiment beaucoup ce film. Mm-hmm. Il a une carrière, c'est un film d'un peu de série B, mais pour lequel j'ai une certaine tendresse.
Moi, je me souviens du dossier de presse qui était quand même très bien fait, avec vos dessins d'ailleurs.
Vous l'avez encore, ce dossier de presse ?
Je crois.
Ça, c'est incroyable, parce que ça, c'est un collector.
Oui. Alors finalement, en compulsion, on est plus en amont finalement par rapport au film dont on vient de parler, non ?
Oui, c'est vrai. Alors,
et comme vous dites, on ne sait pas où on en est. Enfin, vous n'avez plus de contact avec John ?
Pas beaucoup, parce que en fait, je comprends rien au monde du cinéma. C'est un monde étrange.
On ne peut pas dire que vous n'avez quand même pas côtoyé cet univers, quand même.
Non, c'est ça, mais ce n'est pas mon ADN profond. Mais j'ai toujours du plaisir à partir avec un réalisateur. Je vous dis, je travaille sur plusieurs d'autres projets, dont je ne sais pas du tout si un jour ils se feront. Mais ce n'est pas très important. Le plaisir, c'est de construire un univers qui aurait des potentialités cinématographiques. Ce qui n'est pas du tout la même chose que pour faire une bande dessinée, par exemple.
Septième art, c'est le prolongement du neuvième, ou ce sont deux univers différents avec des passerelles
Voilà, ce sont deux univers différents. Là, j'étais à Brest il y a deux jours pour le spectacle, le retour du Capitaine Nemo, un spectacle musical composé avec Bruno Le Thor, des musiciens, un chanteur, une chanteuse maintenant, où je dessine sur scène, Benoît Peters dit, enfin, tout ça se mélange, il y a beaucoup de monde sur scène, et c'est passionnant, c'est projeté, enfin bon. Et là, c'est la scène, et je trouve qu'il y a plus de liens avec la scène qu'avec le cinéma. Le cinéma, c'est un autre monde, et quand je travaille pour le cinéma, je déconnecte toute une partie de mes réflexes d'auteur de bande dessinée.
Compulsion, c'est un projet initié en 2020. Quel fut l'impact du Covid ?
Ah, mine de rien, j'ai fait beaucoup de dessins pendant le Covid.
Parce qu'on est dans une ambiance de fin du monde.
Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Je crois que ça a énormément... Je me rends compte seulement qu'avec le recul, mais ces grandes images, elles étaient faites pendant le Covid, avec les rues vides, avec l'étrangeté, un monde qui devenait... étrange, brusquement, si quotidien et étrange. Et ça, c'est profondément au cœur de ce livre.
Alors, finalement, dans votre récit, qui organise ce joyeux bordel ? C'est Dieu ou le grand architecte de l'univers ?
Je ne vous répondrai pas à cette question. Mais c'est sûr que c'est ça qui m'intéressait. C'est quand on fait des choses qu'on ne comprend pas, dont on ne voit pas trop, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et ça s'appelle quelque part un peu le destin ou le voilà, et un destin extrêmement précis, contraint presque dans une espèce d'obsession du détail. Et moi, ça m'interroge, cette chose-là. Je crois qu'on fait des tas de choses qu'on ne saisit pas réellement, dont on ne voit pas toujours tout à fait le sens.
Résurrection, vie après la mort. Roy en parle, finalement. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion, ou chacun tire sa conclusion ?
Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse toujours. C'est comme des gens qui regardent le Naughty Poulpe devant le palais de justice. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont y mettre. C'est comment... Et j'adore écouter les gens réagir à cette sculpture, comme j'adore les gens réagir à un livre comme Compulsion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire que les lecteurs ont. C'est un imaginaire souvent sous-estimé, extrêmement puissant. Et je trouve qu'il faut revenir aux imaginaires, parce que je trouve parfois la bande dessinée trop reliée au réel, avec des sujets, des thématiques bien inscrites dans le monde d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est formidable aussi, mais je crois beaucoup, moi, à de nouveaux imaginaires. Il est temps de nous redonner de nouvelles visions sur le monde, autant, je dirais... belle que peut-être inquiétante.
Alors on pourrait se demander, un peu comme Lee, pourquoi ce truc n'oblige-t-il pas toute la population ? Est-ce qu'on est... Les obligés, ce sont des élus ?
Pourquoi le Covid n'a pas touché tout le monde ?
On en revient. Ouais.
Oui, mais oui, c'est ça qui m'amusait, c'est qu'il y a un côté effectivement viral. On est touché comme ça par quelque chose et ça se révèle, ça me plaît, moi, personnellement, de ne pas comprendre pourquoi. Vous savez, je trouve souvent les questions plus intéressantes que les réponses.
Finalement, on pourrait aussi se demander, les obligés, C'est assez surprenant, ils ont des laissez-passer, et ils ont même une législation, et ils ont même une jurisprudence de la Cour qui les protège d'une certaine façon. Oui. Et à côté de ça, on a l'ordre, on a la garde nationale qui sont prêts à les attaquer.
Oui.
Grosse question, finalement, aussi.
Moi, je trouve qu'on est dans un système qui, quelquefois, se retourne contre lui-même. On est dans une machine qui peut être aveugle, et dont on ne voit pas la logique. Et pourquoi on en est à avoir construit quelque chose qui nous détruit ? Ces choses-là, ces paradoxes, je dirais, de société. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui de parler. Parce que, vous savez, il y a une lisibilité, il y a un brouillage aujourd'hui, parce qu'on vit, comme je pense, chaque époque sans doute, mais peut-être que cette époque est encore plus... Comme elle va très vite, il y a une illisibilité. Et ça m'intéresse que nous, auteurs, on s'affronte à ça, on joue avec ça, on punch avec ça.
L'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou au contraire, ça vous motive ?
Ça m'intéresse, ça me fait peur et ça m'attire. J'ai toutes les sensations devant ça. Je sais que ça va nous aider sur beaucoup de domaines. Je sais que ça va faire énormément de dégâts. Donc comment on dialogue avec ça ? Je n'ai pas de religion là-dessus. Je n'aime pas ni ceux qui annoncent l'Apocalypse, ni ceux qui m'annoncent le paradis. Je crois qu'on va devoir travailler avec elle.
Et pactiser.
Aussi la contenir. Mmh. Lui donner des rôles précis et ne pas la laisser nous envahir et nous empêcher à être libres.
Quand j'ai dévoré votre ouvrage, j'ai eu des flashs comme Stone Age... Moaï de l'île de Pâques, Gateway Arch de Saint-Louis, la stèle de 2001, la statue de la liberté de la planète des singes. Est-ce que vous fonctionnez aussi par des flashs ou des souvenirs, conscients ou inconscients, qui vous reviennent et qui vous inspirent dans votre création ?
J'aime beaucoup vos flashs. Je trouve que ce sont des flashs que je trouve justes, appropriés. Oui, en fait, ce qui m'intéresse... c'est comment le lecteur garde des images et quel type d'image il se construit, mais quelles sont celles qu'il va garder en lui. Et moi, j'adore quand dans un film, j'ai vu le dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, que je trouve un film extraordinaire. Il y a des images que je garde en moi qui ont une présence, qui continuent à me fasciner, et d'autres films où je ne sais même plus de quoi ça parle. Et ça, c'est quand même la force d'un grand réalisateur. Et c'est d'arriver un tout petit peu à ce qui est de la persistance rétinienne chez celui qui vous regarde.
Est-ce que vous êtes un dessinateur obligé ? Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, comme un peu les héros de Compulsion ?
Je suis un dessinateur compulsif. Je ne peux pas m'empêcher de dessiner. Parce qu'en fait, en dessinant, j'essaie de comprendre. En fait, dessiner m'aide à décrypter le monde que je trouve très, très obscur. Et le dessiner m'apprend à regarder, en fait.
La mer est importante, que ce soit le sous-marin de Roy, que ce soit la plage avec Lee et Vida, Brest. C'est vous, c'est John, c'est Adam ?
Non, c'est venu presque comme ça. Ça s'est insinué. En fait, j'aime beaucoup dessiner la mer. En fait, tout ça tient parfois aussi au plaisir du dessin, tout bêtement. L'émotion qu'on peut avoir à essayer de saisir le mouvement des vagues, la beauté de la lumière sur ces reflets, l'écume, tout ça, ce sont des choses qui donne énormément de plaisir à rendre. Parce que si vous avez bien regardé, les images sont des doubles pages. En fait, il n'y a pas de trait dans ces grandes images. C'est tout en acrylique, crayon. Mais pour faire sortir la couleur, pour faire sortir les formes, les objets, les personnages. Et donc, il faut que j'ai un plaisir et un désir de me... que l'image me surprenne.
C'est vrai qu'on a deux types de dessins. On a les grandes envolées lyriques, ouais, qui sont de doupage couleur, et à côté de ça, le quotidien, ce sont vos noirs et blancs avec de nouveau vos hachures. Comment avez-vous établi cette balance entre les deux ?
Le livre a été très difficile à faire. On avait un matériel qui était très large et Adam, ça a dû resserrer. Moi, j'ai dû trouver l'écriture avec le graphiste Philippe Calmetti. Et on a beaucoup cherché et on s'est beaucoup trompé. On a pris des pistes qui n'étaient pas là, les bonnes. Et où, à la fin, je me disais, mais ça ne marche pas. Et Philippe aussi. Donc, avec l'éditrice ici, chez Dargo, on a repris. Et en fait, un livre, ça doit se chercher. Ça doit, il ne faut pas croire qu'il va se donner si facilement. Et ça me plaît, parce que c'est vrai que ce n'est pas une bande dessinée. Et c'est un drôle de livre illustré, puisqu'il articule des formes graphiques différentes. Des grandes doubles pages, avec des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus, ouvragées. À la plume, au trait, et ça me plaisait justement de trouver là-dedans le livre. Et ben, parfois le livre, il faut le chercher solidement, quoi. Et on est dans le brouillard. Mais moi, j'aime bien faire des prototypes. J'aime bien que chaque livre, ben, moi j'appelle ça des olni, des objets livres non identifiés, pour que ce soit vraiment des choses qui vous interpellent et que vous sentiez qu'ils sont uniques. Aujourd'hui, il faut faire des livres rares parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens et un livre, c'est un investissement. Et donc, il faut qu'ils aient le sentiment que dans leurs mains, il y ait quelque chose qui soit quand même...
Un joyau. C'est le cas. C'est
en tout cas, qu'il ait été ciselé avec le maximum de passion et de désir et d'intérêt pour qu'il ait un peu de valeur.
Les objets du quotidien étaient plus difficiles pour vous à dessiner.
Ouais. Oui,
assez... ça, c'est surprenant.
Ben oui, aller dessiner une voiture d'aujourd'hui, c'est pas tous les jours. Et des routes, et une station de péage, vraiment. Mais je trouvais que c'était nécessaire, parce que si je dessinais...
Vous êtes forcé ?
Non, je me suis forcé moi-même. Je l'ai proposé, je me suis dit, je dois faire ça, parce que c'est ça qui donne de l'intérêt à des choses beaucoup plus fantastiques. Moi, j'aime pas trop, souvent, on me rapproche du style steampunk, parce que c'est ce style un peu comme ça, avec des architectures un peu à la Eiffel, etc. Mais profondément, je ne pense pas comme ça. Ce style un peu, je dirais, baroque et excessif, et où il y a des volutes métalliques et des rivets à peu près partout, ça m'ennuie parce que je ne comprends pas la logique. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le quotidien et c'est le fantastique dans le quotidien. Mais pour installer ça, il faut aussi mettre du quotidien.
Quelle est la place de la femme ? Parce que finalement, compulsion est un nom féminin. Le mot de la fin, c'est Vida qui l'a. Vida et Alina, finalement, sont égales, mais à la limite, peut-être un peu plus poussées. Ça s'est venu à la constitution de l'histoire, ou dès le départ, on voyait qu'on avait plus des Amazones qu'autre chose ?
Pour être franc avec vous, si vous regardez mon travail... Les femmes ont toujours un rôle essentiel, en fait. L'enfant penché, mais dans Bruxelles aussi, tous les personnages féminins sont des personnages qui sont essentiels, en fait. Curieusement, je me suis rendu compte à un moment donné de ça. C'est sûr que j'ai grandi dans un monde de femmes. J'ai 5 sœurs. Elles sont toujours là, elles me regardent toujours, elles me protègent peut-être par certains côtés. Je pense que les plus grandes admirations que j'ai, c'est pour des femmes.
Alors, il y a plusieurs visages qui sont tournés vers le ciel. Pourquoi avoir choisi celui de la couverture ?
J'ai beaucoup cherché sur la couverture. J'ai fait une autre couverture, qu'on a reprise d'ailleurs... dans les pages de garde, c'était très difficile de résumer un récit de synthétiser de un récit comme ça. Je n'arrivais pas à trouver ce qui pouvait incarner cette étrange chose qu'est la compulsion de ce fantastique. J'avais une vraie difficulté. Et donc, je trouvais que ce visage de femme, fait de métal, de morceaux, de pièces bizarres, était la seule façon de donner quand même un sentiment qui pouvait se rapprocher du cœur du récit.
Je me suis demandé si, en tant que dessinateur, vous n'aviez pas parfois certaines frustrations d'avoir simplement la feuille, ou peut-être avec l'ordinateur, cette perspective, et que finalement, avec le Naughty Pulp, vous êtes passé dans la troisième dimension.
c'est pas une frustration. C'est vrai que quand on voit le projet du Naughty Pulp, c'est devenu un livre et c'est devenu une exposition, là, pour l'instant, chez Champaka et à Paris. C'est devenu un spectacle. Et donc, en fait, certains font le mot du mot de dire que c'est tentaculaire, mais c'est pas faux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sans doute de construire des choses qui dialoguent entre eux dans des formes différentes. Parce que le livre, pour moi, est un élément, et ce qui m'amuse toujours, c'est de voir comment il peut vivre autrement, ce récit, cette chose sur laquelle on travaille pendant des années, comment il peut, quelle vie il peut avoir dans d'autres formes. Et c'est ça qui m'amuse aussi, de vérifier ça, de voir les limites et parfois à quel point il se réinvente.
François, un grand merci. On rappelle Compulsion, donc paru aux éditions d'Argo, dès à présent disponible en librairie. Bon cadeau, vraiment une belle suggestion pour les fêtes. Là.
Mais merci beaucoup.